9h-10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Demain, le grand débat pour éviter le grand chaos. Emmanuel Macron appelle les Français à se saisir de cette consultation et il compte sur les maires pour porter ce dialogue entre l'État et les citoyens. Mon premier invité sera le maire de Dijon, l'ancien ministre socialiste François Rebsamen. Dijon qui fait le plein de gilets jaunes. Chaque samedi, encore 3000 manifestants hier, soit le chiffre le plus élevé depuis le début du mouvement à la mi-novembre. Demain, le Brexit et le saut dans l'inconnu des Britanniques. Mardi, les députés devraient dire non à l'accord de retrait négocié par Theresa May, avec le risque d'une sortie désordonnée et désastreuse du Royaume-Uni fin mars, ou l'éventualité d'un deuxième référendum. On en parle avec le journaliste du Guardian, correspondant aux affaires européennes, John Henley. Au générique de C'est arrivé demain également, Chambord, le plus beau château du monde pour l'écrivain Charles Danzig, le plus élégant, le plus surprenant. Danzig le célèbre dans son nouveau livre Chambord des songes. Il compare aussi François Ier à nos rois d'aujourd'hui, ceux à qui des foules en jaune veulent couper les têtes, vous l'entendrez. Et puis Juliette Binoche, à l'affiche d'une comédie signée Olivia Sayas, Double vie, aux côtés de Guillaume Canet, à voir mercredi prochain au cinéma.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour François Rebsamen.
Bonjour Patrick Cohen.
Maire socialiste de Dijon, président de Dijon Métropole, ancien ministre du Travail sous François Hollande. Vous êtes en ligne donc de Dijon. Il y avait encore beaucoup de monde dans les rues hier.
Énormément, énormément. Plus que le samedi d'avant. Et chaque samedi, l'histoire se répète. Ils manifestent dans la ville et les casseurs se mêlent aux manifestants et les forces de l'ordre ont à rétablir l'ordre très tard le samedi après-midi.
En novembre et décembre, la préfecture et la mairie avaient été attaquées. Ça ne s'est pas reproduit hier?
Non, la semaine dernière, c'était la gendarmerie et hier, c'était du mobilier urbain et des véhicules qui ont été incendiés par des casseurs qui se mêlent à des gilets jaunes qui, pour la plupart, 90% d'entre eux, bien sûr, manifestent tranquillement.
Oui, mais il y a eu des dégâts dans votre ville. Ça se chiffre à combien? Plusieurs centaines de milliers d'euros de dégâts?
Absolument. Et je ne compte pas encore les heures supplémentaires de tous les fonctionnaires que je félicite, que je remercie. Oui. Services de nettoyage, etc., etc. La police, la gendarmerie. Enfin, tout le monde est mobilisé et tout le monde est un peu lassé parce qu'il n'y a plus de transport en commun le samedi. Les commerçants sont gênés dans leur activité. Il faut trouver une sortie parce que ça ne peut pas durer. Et je ne la vois pas pour le moment.
Mais alors, tout de même, 3000 manifestants dans une ville de quoi, c'est 150 000 habitants, Dijon. Hein.
La ville, c'est 150, c'est ça.
C'est beaucoup, c'est plus qu'à Rouen, à Strasbourg ou à Lyon. Comment vous l'expliquez, François Rebsamen, cette mobilisation constante et depuis le premier jour, depuis le 17 novembre?
Vous savez, dans un triangle Paris, Strasbourg, Lyon, il y a une métropole, elle s'appelle Dijon, et autour, disons, les départements alentours sont des départements souvent sans grande ville. Et donc beaucoup de gens du monde rural viennent manifester à Dijon. Il y a très peu de Dijonnais. C'est un lieu de rassemblement, un peu comme à Bordeaux. Vous voyez, c'est l'endroit où on se retrouve, où on se fait des amis, parce qu'on s'ennuie dans son petit village. Il n'y a pas de vie collective dans ces villages. Et puis on vient manifester pour montrer notre force. Enfin, je parle des gilets jaunes, pour montrer leur force. Et donc c'est comme ça qu'ils se retrouvent ici. Voilà, c'est pas ailleurs, mais c'est parce que c'est la métropole dans ce triangle.
Et qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qui domine dans les motivations, les revendications?
La première, c'est la démission du président de la République. C'est permanent, ce qui est quand même assez incroyable. Donc c'est Macron démission, je passe les insultes. Et puis sinon, c'est des choses assez contradictoires, mais enfin, l'ISF est très présente. Et je dois dire que les annonces qui ont été faites par le gouvernement en lançant ce grand débat, enfin ce qu'ils veulent être le grand débat, ça ne prendra jamais parce que ça commence par une revendication à laquelle on a déjà dit non. Et donc ça augmente leur colère. Ils veulent de la justice. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La justice fiscale, la justice sociale. Mmh. Ils se sentent délaissés. Beaucoup de retraités qui savent que leurs pensions sont désindexées et qui trouvent absolument injuste que il y a des cadeaux qui étaient faits aux plus riches, pas aux riches, aux plus riches.
Vous avez tenu, je crois, des réunions publiques ces dernières semaines. Vous avez présenté vos vœux aussi il y a deux jours. Vous êtes allé au contact, vous avez discuté. Je sais que le dialogue n'est pas facile, même si vous êtes maire et vous n'êtes pas étiqueté macroniste comme votre ancien camarade François Patriat, sénateur LREM, qui a eu des réunions assez houleuses et assez difficiles avec les Gilets jaunes.
Oui, les Gilets jaunes n'en veulent pas au maire. Et donc, nous ne sommes pas pris à partie. Moi, j'ai fait des propositions pour le pouvoir d'achat, dans la mesure des moyens de la ville, bien évidemment. J'ai fait des propositions pour l'organisation de la mobilité. Bref, j'ai l'impression que le gouvernement redécouvre un peu les corps intermédiaires, c'est-à-dire les collectivités locales, les maires notamment, qui sont les seuls, je me permets de le dire, qui gardent encore une confiance majoritaire chez les Français.
Oui.
Et puis, rappelez-vous, Patrick Cohen... Peut-être on me brocardait à l'époque, mais le débat sur le cumul des mandats, eh bien, on a aujourd'hui des députés, des parlementaires qui sont hors sol, qui ne connaissent pas, qui ne connaissent plus, qui ne connaissent pas la vie directement des collectivités. Et je crois que le dialogue est très difficile entre les parlementaires et les Gilets jaunes.
François Rebsamen, maire de Dijon, en direct de Dijon. On marque une courte pause. Je vous demanderai dans un instant comment vous comptez aborder justement ce grand débat que le gouvernement veut lancer dans les prochains jours.
Europe 1. De 9h à 10h, vous écoutez C'est arrivé demain avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Avec le maire de Dijon et président de Dijon Métropole, François Rebsamen. François Rebsamen, allez-vous organiser, accompagner, porter le grand débat national censé apaiser la colère des Gilets jaunes? C'est du moins, si on a bien compris, le souhait du gouvernement qui veut s'appuyer sur les maires.
Voilà qu'il redécouvre les maires. Ça me fait plaisir d'une certaine manière, mais non, je ne souhaite pas organiser ce grand débat parce que je pense qu'il n'avancera pas. Par contre, je ne l'empêcherai pas. On sera, je crois que c'est la position de l'Association des maires, facilitateur du débat.
Donc, c'est-à-dire
des salles,
vous allez donner des salles et vous allez allumer le chauffage et la lumière, c'est ça, hein?
Voilà, enfin, je ferai allumer le chauffage et la lumière.
Mais sans vous engager, vous, dans le débat.
Ah non, parce que d'ailleurs, c'est pas nous. Ils n'ont pas de revendications. Celles qu'ils ont, on les connaît, ils nous voient et on y répond. Et donc, c'est au gouvernement de trouver les réponses. Et donc, ils ont imaginé un débat, je veux dire pourquoi pas, mais quand on commence par la fermeture plutôt que par l'ouverture, voilà. Donc, il faut que nous, quand même, parce qu'on est responsables, les maires, on fasse des propositions, je pense, qui puissent permettre de trouver des portes de sortie.
Alors, par exemple.
On ne peut pas durer comme ça tout le temps.
Par exemple, pour ce qui vous concerne.
Moi, d'abord, j'ai dit ce qu'il en était du rétablissement de l'ISF, ça c'est clair. La justice fiscale, je pense que c'est le début du mouvement. Et le gouvernement a tardé à répondre. Alors, comment on peut répondre? Moi, je pense que je vois une première réponse, un grand élan à nouveau de décentralisation. Ce pays étouffe de l'absence de corps intermédiaires, de la recentralisation que le président de la République a mis en place depuis un an et demi, du mépris vis-à-vis des maires. Donc il faut nous redonner une liberté fiscale et puis une liberté aussi en termes, j'allais dire, de propositions. Parce que si on avait une nouvelle décentralisation, d'abord nos budgets ne dépendraient pas des préfets, on pourrait agir plus librement sur le territoire. Il est tellement différent, mais vous le savez, Patrick Cohen, la France, elle est la France de Brodel, c'est pas la même chose en Lozère, en Côte d'Or, en Saône-et-Loire ou dans le Val-de-Marne.
Oui, mais il y a trois minutes, vous regrettiez la fin du cumul des mandats, François Rebsamen. Est-ce que c'est pas contradictoire? Fin du cumul,
non,
d'ailleurs,
qui
a été quand
tout.
Même achevé, non, aggravé par sous le quinquennat Hollande, auquel vous avez participé.
Non. Je regrettais. Je faisais remarquer, vous le savez, que maintenant les parlementaires n'ont plus la prise avec l'organisation de la vie locale. Et donc c'est pour moi, je pense, un regret. Mais passons sur ça. Je dis aujourd'hui, la France est très différente et il faut qu'on puisse avoir plus de liberté, non pas uniquement pour expérimenter, mais pour réaliser des choses différentes. On peut répondre, par exemple, au référendum d'initiative citoyenne sur nos territoires, mais pas sur les grands sujets de l'État. tout ce qui est régalien relève de l'État. À lui d'assumer la justice fiscale et la justice sociale. Mais à nous d'animer les territoires. Et pour ça, il faut qu'on en ait les moyens et qu'on ne soit pas méprisé. On l'a été, je parle des maires, des élus locaux, qu'on ne soit pas méprisé. Et puis qu'on nous... Vous savez, maintenant, on est même obligé d'attendre la validation de notre budget par le préfet. Vous voyez, c'est retour 40 ans en arrière, quasiment. Donc je pense que une nouvelle étape de la décentralisation... répondre pour l'État à la justice fiscale, à la justice sociale, parce que c'est ça l'origine du mouvement. Voilà deux pistes. Mmh. Après, on pourra faire des propositions encore plus précises.
Qui porte la responsabilité de la situation actuelle, François Rebsamen ? Emmanuel Macron tout seul ou ses prédécesseurs, y compris François Hollande ?
Ben, écoutez, il y a eu beaucoup de choses hein, sous François Hollande comme mouvement, mais il n'y a pas eu ce mouvement. Donc il y a aujourd'hui un sentiment de relégation, de mépris. Je m'excuse, mais il y a eu des propos du président de la République. Était-il maladroit ? Parce que l'homme est intelligent et brillant, mais était-il maladroit ? Était-il un peu infantile par moment ou était-il volontaire ? En tous les cas, tous ces propos ont véhiculé une sorte de mépris du pouvoir central, parce qu'il se voulait jupitérien, c'est-à-dire sans corps intermédiaire. Tout ça a provoqué des réactions violentes, plus l'injustice fiscale. Je m'excuse d'y revenir, hein, mais vous savez, demander à des retraités de payer la CSG, enfin un peu plus de CSG, même qu'on donne aux plus riches sans qu'on voit le retour, que sont devenus les 80 000 euros que Mme Pénicaud, par exemple, avait dit qu'elle remettrait dans l'économie. Je ne sais pas, 80 000 euros par an de cadeaux fiscaux. Tout ça, ils le savent. Hein. Ils sont très, très attentifs à tout ça. Plus les paroles un peu méprisantes. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie rupture et il faut redonner de la confiance, il faut être sincère dans l'engagement et le fait de dire on va faire un grand débat, mais il y a une chose qu'on ne fera pas, on ne remettra jamais l'ISF. Moi j'avais fait des propositions avec France Urbaine, j'avais proposé que les plus aisés, les plus riches, les très riches financent la lutte contre le réchauffement climatique à travers la rénovation des immeubles dégradés. Mais aucune proposition n'est retenue, c'est bien ça le problème.
Oui.
Il y a des mots, mais il n'y a pas d'actes.
En vous entendre François Rebsamen, on comprend que vous pensez que cette rupture-là, cette rupture de confiance, elle n'est pas réellement réparable. Je me trompe ?
Bah, je souhaite qu'elle soit réparable parce que ça ne peut pas durer, mais je dis elle est profonde, on va dire. Elle est profonde, elle est ancrée et donc il faut absolument en prendre la mesure parce que je vois ce qui se passe chaque semaine à Paris, mais c'est également le cas dans les grandes villes de France. Et donc on a ce phénomène sur l'ensemble du territoire. Et imaginez, voilà que la croissance va être sûrement bloquée, mais elle l'était peut-être avant même le mouvement des Gilets jaunes parce que le président de la République a hérité d'une situation absolument incroyable en 2017. Fin 2017, tout est au vert. Tous les clients, tous les clignotants sont au vert. Or, fin 2018, tout redevient dans le rouge, y compris la confiance. C'est quand même une lourde responsabilité. Moi, je veux bien qu'on dise c'est les prédécesseurs. On a tous une part. Mais quand on arrive au pouvoir, on assume le passé. Et donc, on le sait dans nos villes. C'est pareil au niveau de l'État.
Merci François Rebsamen d'avoir été en ligne avec nous depuis Dijon grâce aux moyens techniques de Laurent Pelé.
Europe 1.
Dans un instant, le saut en parachute, sans parachute de Theresa May. Une défaite parlementaire quasiment assurée mardi sur le Brexit qui va déboucher sur une immense incertitude.
Europe 1. C'est arrivé demain. Continue jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Le vote a été repoussé plusieurs fois, mais là, impossible de reculer. Le temps presse à 2 mois et demi du Brexit prévu le 29 mars. Les députés britanniques se prononceront mardi sur l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, c'est-à-dire sur le texte tel qu'il a été négocié entre Bruxelles et le gouvernement de Theresa May. Bonjour, John Henley.
Bonjour.
Correspondant du grand journal Le Guardian pour les affaires européennes, qu'est-ce qui va se passer mardi ? Qu'est-ce qui devrait se passer ?
Ce qui va se passer, tout le monde est presque certain, c'est que Theresa May va perdre. Les députés vont voter massivement contre l'accord, contre le deal de Theresa May qu'elle a ramené de Bruxelles.
Il n'y a pas de majorité, en fait.
Il n'y a pas de majorité. Le grand problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas de majorité pour quelque Brexit qu'il soit, c'est ça.
Il n'y a pas de majorité pour aucune hypothèse, en
exactement,
fait.
Exactement, exactement. Donc, elle a déjà son propre parti, une grande partie de son propre parti, qui est contre le deal, parce que ça, c'est les Brexiteurs, les pro-Brexit, les anti-européens qui trouvent que ça ne va pas assez loin, que ça ne redonne pas assez d'indépendance, comme ils disent. française à la Grande-Bretagne, et elle a l'opposition. Et les pro-européens sont contre parce qu'ils trouvent que c'est bien pire que de rester dans l'Union européenne.
Et ils militent pour un nouveau référendum à l'image d'un député qui s'agite beaucoup, qu'on entend beaucoup, qui s'appelle Dominique Grieve, qui est un conservateur et qui réclame et qui a l'espoir à la fois de faire reculer l'échéance du Brexit au-delà de la fin mars et d'obtenir un nouveau référendum. Est-ce que ça vous paraît, est-ce que l'hypothèse vous paraît aujourd'hui plus, en tout cas plus solide que ces derniers mois?
La deuxième hypothèse, c'est-à-dire d'une extension de l'article 50, semble de plus en plus probable.
L'article 50, c'est celui dans le traité européen. Exactement. Qui prévoit la sortie d'un pays.
Voilà, il y a un processus juridique qui permet la sortie d'un pays de l'Union européenne. Ça dure 2 ans. La Grande-Bretagne, le gouvernement de Theresa May l'a déclenché le 29 mars 2017. Donc logiquement, la Grande-Bretagne va sortir. Mais il y a aussi une clause dedans qui permet une extension. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne peut demander aux États membres, aux 27, de prolonger, de reporter la date de sortie pour permettre à la Grande-Bretagne d'arriver à un accord entre le gouvernement et le Parlement sur quel genre... En fait, c'est ça le problème dès le départ. C'est que l'article 50 a été invoqué sans aucun plan, sans que le gouvernement se soit mis d'accord sur une version ou une autre du Brexit. Est-ce qu'il voulait la version dure, le hard Brexit, ce qui implique... Voilà ce qu'ils disent, un peu plus de souveraineté, mais un impact, un vrai impact considérable économique, ou un Brexit plus doux, plus soft, ce qui implique, ce qui protégerait l'économie, mais laisserait la Grande-Bretagne beaucoup plus intégrée avec l'Union européenne.
Il faut rappeler que les Européens, avec leur négociateur Michel Barnier, ont dit qu'il n'était pas question de rouvrir des discussions qui ont déjà été longues et laborieuses. Et puis, il y a cette hypothèse, cette menace ultime, celle du no deal, c'est-à-dire de l'absence d'accord, d'une sortie de l'Europe sans accord, qui serait, selon beaucoup d'analystes et selon le patronat britannique, il a encore rappelé cette semaine, qui serait sans doute un chaos pour l'économie britannique, parce qu'un no deal, ça supposerait un retour immédiat au contrôle douanier, au contrôle aux frontières.
Tout à fait. Ce sera plus qu'une catastrophe économique. La Grande-Bretagne risquerait de ne pas pouvoir se nourrir. Il y aura pas assez. On importe 40% de notre nourriture.
Ce serait bloqué aux frontières.
Des médicaments aussi. On a commencé déjà. Le ministère de l'Intérieur britannique a déjà dit il y a 2 semaines qu'il était devenu, du jour au lendemain, le plus grand acheteur de frigos au monde. Ils ont commencé à stocker la nourriture, des médicaments essentiels, etc. Ça serait catastrophique.
Donc, examinons les hypothèses. Une crise politique sûrement et éventuellement un retour aux urnes, parce que c'est quand même le plus simple quand il y a une absence de majorité
C'est ce que veut le Labour. Les nouvelles élections, c'est ce que veut le Labour.
Mais vous ne m'avez pas répondu, John Henley.
Deuxième référendum.
Un deuxième référendum possible?
C'est possible. Tout est possible. En fait, on peut vraiment pas le dire. Ça beaucoup dépendra de la taille de la défaite de Theresa May ce mardi. Si elle subit vraiment une défaite cuisante, je pense que elle pourrait bien considérer, même si elle a juré dès le début du processus, il n'y aura pas de deuxième référendum. Ce serait catastrophique pour la foi dans la démocratie des électeurs, etc. Il y en a beaucoup qui militent pour. Et justement, cette extension de l'article 50 permettrait peut-être à décider dans quelle voie on va aller.
Une crise politique très importante et passionnante à suivre. Ce sera donc ce vote mardi. Merci John Henley, qu'on peut lire dans le Guardian. Merci d'être venu nous éclairer ce matin dans cette arrivée demain.
Europe 1.
Dans un instant, l'écrivain Charles Danzig, qui célèbre Chambord, l'un des plus beaux châteaux du monde selon lui, et qui ne supporte pas ces gilets jaunes qui veulent couper la tête de nos rois d'aujourd'hui. A tout de suite.
Europe 1. Vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Certains sont fascinés par le gilet jaune Éric Drouet. L'écrivain Charles Lanzig est fasciné par Chambord, le plus beau château du monde. Ou l'un des plus beaux châteaux, se reprend-il, parce qu'il n'aime pas les classements et les superlatifs. Chambord, gâteau de flammes posé sur la plaine, imaginé, rêvé par François Ier, roi fascinant lui aussi. Cela donne ce livre Chambord des songes, un château de 300 pages, mais à la Danzig, avec des sommets d'érudition, des listes bien sûr, des listes de choses, et des kilomètres de digression où il est question de nos rois d'aujourd'hui, Trump, Macron, et même de ceux qui veulent leur couper la tête. Bonjour Charles Lanzig.
Bonjour Patrick Cohen.
J'ai parlé de fascination, le mot n'est pas trop fort. Chambord est un château qui vous inspire, qui vous fait rêver.
Oui, c'est tout à fait fascinant parce qu'il ne ressemble à aucun autre château royal en France. Il est comme toutes les grandes choses de pouvoir, il est secret.
On ne le voit pas de loin.
On ne le voit pas de loin. Et ça, je pense que c'est une des grandes ruses du pouvoir de l'époque et peut-être du pouvoir de toujours.
Tout est élégant dans ce château, écrivez-vous, qui n'est pas un château mais un poème. Dont les plans ont disparu et dont on ne connaît pas l'architecte principal. Ça fait partie du mystère.
Ça fait partie du mystère. Des gens disent que c'est Léonard de Vinci, oui, l'architecte, mais en réalité, c'est faux. En réalité, c'est faux. On n'a pas du tout de traces de Léonard dans le peu de papier qui reste.
Vous colportez une fable, l'architecte assassiné, fait assassiner par François Ier.
Mais qui sait si ça n'est pas vrai ? Qui sait si ça n'est pas vrai si un soir, dans une cérémonie funèbre, François Ier, voulant s'approprier tout le mérite de ce château, n'a pas fait égorger l'architecte ?
C'est à vos yeux un château qui surprend, et la surprise, écrivez-vous, est la caractéristique du génie.
Mais oui, c'est ce que je pense. Tous les grands artistes, nous, qu'ils soient architectes, écrivains ou peintres, nous surprennent. Chambord, c'est comme Picasso. On pense connaître Picasso, on pense en être rassasié. Chaque fois qu'on voit un Picasso, on est surpris. La surprise est vraiment un élément esthétique très très important du génie.
Contrairement à Versailles, Chambord est surprise, Versailles est monotonie.
Mais Versailles, c'est la sécu. Versailles, c'est un château voulu par Louis XIV pour non seulement Sa Majesté, mais pour y mettre tout le gouvernement. Il y avait 10 000 personnes. Bien c'était sûr. Vraiment, c'était infréquentable, Versailles.
Chambord, château surprise, où Jacques Demy nous a fait la surprise d'y faire atterrir Jean Marais et Delphine Seyrig en hélicoptère dans la dernière scène de Podane. Vous l'évoquez, Charles Lanzig. Mais ce qui domine vos pages et ce Chambord des songes, c'est la figure et la stature de celui qui a fait bâtir Chambord et la peut-être dessiné en partie, François Ier, dont le nom est longtemps resté associé à Europe 1, mais c'est terminé. François Ier, bel homme, très grand.
Très grand, on le sait parce qu'il en reste une armure et il mesurait 1m94, ce qui était considérable pour le temps, même pour aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'était un très grand homme et qui avait une qualité parmi nos rois de France qui ont été dans l'ensemble si désagréable, si chafouin, si amer. Enfin, je me demande comment on peut aimer Louis XIV. François Ier avait une forme de sympathie, pour autant qu'on puisse le savoir, et qui se remarque, Patrick Cohen, à une chose à mon avis, c'est que dans presque tous ses portraits, il se fait représenter souriant. Et ça, c'est une chose que vous ne verrez sûrement pas chez Napoléon, sûrement pas chez Louis XIV. Donc, ça ne veut peut-être pas dire qu'il était très aimable, mais ça voulait dire qu'il s'efforçait à l'être, et c'est déjà pas mal.
Vous pressentez, vous supposez que François Ier n'était pas un histrion, parce que vous rangez les hommes de pouvoir en deux catégories, les histrions et les non-histrions. Histrion, c'est un fanfaron, un comédien, voire un mauvais comédien.
Oui, c'est ça, une forme de bouffon. Écoutez, il y a une forme d'histrionisme et donc de bouffonnerie dans le pouvoir que nous constatons. Louis XIV, pour moi, était un histrion. Enfin, cette manière de se mettre des perruques d'un mètre de haut et d'organiser la révérence à son pouvoir. Je le cite dans le livre, une chose que j'ai découverte qui m'a fasciné, c'est qu'à Versailles, quand Louis XIV n'était pas là, les courtisans saluaient le lit vide. Le lit vide du roi était salué, c'est-à-dire le niveau d'asservissement où des gens peuvent volontairement aller. On nous dit la France, pays de la liberté. Ha ha ha, si je puis dire. La France est un pays aussi servile que les autres.
Mais De Gaulle aussi, vous le rangez parmi les histrions. Mais
bien sûr, il y avait de l'histrionisme, malgré toutes les qualités évidemment qu'il a eues en 40. Moi, j'ai toujours pensé que De Gaulle avait une forme d'éloquence du théâtre de boulevard des années 1890 où on devait l'amener quand il était petit. Et De Gaulle avait cette forme d'humour-là qui était une forme d'acteur de théâtre, d'humour d'acteur de théâtre.
Alors, on voit, Charles Lanzig, que Chambord et François Ier vous amènent à nous parler des rois d'aujourd'hui. Vous les observez, vous en avez approché quelques-uns, vous en égratignez beaucoup. Dominique de Villepin, qui vous invite à Matignon pour parler de lui pendant 2 heures, pour se comparer à Malraux et vous expliquer qu'il est un génie. Vous vous affligez aussi de la fausse culture de de Chirac et de son mépris de la littérature, des mauvais discours mal écrits d'Emmanuel Macron, mais celui qui vous afflige par-dessus tout, surtout qui vous inquiète, c'est Donald Trump. Vous semblez d'abord fasciné par sa vulgarité, son mauvais goût.
Mais oui, c'est une chose extraordinaire. C'est-à-dire que nous y sommes hélas habitués dès qu'il a été élu. Mais rappelez-vous, vous étiez probablement comme moi. Un jour avant, tout le monde se disait que ça n'était pas possible. Et pourtant, nous sommes jour après jour accablés de sa vulgarité, de sa violence et de sa brutalité qui est quotidienne et qui est dramatique, non pas seulement en tant que telle, mais parce que c'est un exemple. Et Trump est effrayant parce qu'il donne l'exemple. Vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, maintenant, des enfants des écoles cassent la figure à des petits noirs ou à des petits juifs en leur disant de la part de Trump. Donc ça descend jusque-là. Ces gens sont des exemples. Et évidemment, ils nous donnent un contre-exemple. Et c'est ça qui est effrayant. Les vannes de la vulgarité ont été ouvertes par lui. Et puis maintenant, nous avons Salvini. Et puis nous avons tous ces gens-là. Et ça arrive en France.
Toute la dernière partie de votre livre, Charles Lanzig, est hantée par les temps présents. J'écris en des temps fanatiques. Un désir de servitude se répand dans toute l'Europe et aux États-Unis. Les peuples sont rarement démocrates et assez peu progressistes. Vous avez écrit ces lignes-là en décembre au plus fort du mouvement des Gilets jaunes, et ce mouvement vous inquiète.
Et vous savez, le peuple, c'est un mot avec lequel il faut faire attention. Moi, je crois qu'il y a des gens malheureux, il y a des gens qui sont mal payés, il y a des gens qui sont mal considérés, nous sommes d'accord. Mais dès qu'on se met à employer le mot « peuple » pour exciter le ressentiment, le peuple, ça n'existe plus dans ces cas-là. Ces gens devraient savoir, les Gilets jaunes et beaucoup d'autres devraient savoir, que dès que ceux qui les flattent prennent le pouvoir, ils sont les premiers écrasés. Qui se rappelle Mussolini ? Mussolini était un populiste, il a pris le pouvoir immédiatement, le peuple italien a été asservi. C'est toujours comme ça. Ces gens-là sont instrumentalisés pour soulever des forces et pour organiser une prise de pouvoir. Je pense profondément ça.
Vous avez mis en exergue de votre livre, Charles Lanzig, une citation de La Boétie, extrait du discours de la servitude volontaire.
Oui, La Boétie, qui était, comme tout le monde sait, l'ami de Montaigne et qui écrivait ce texte vers 1500, a écrit ce bref texte qui est toujours d'actualité et qui dit que parfois les peuples organisent eux-mêmes leur servitude et que ça n'est pas très compliqué. Il passe 30 pages excessivement brillantes à dire « mais vous donnez à des rois les instruments de votre esclavage et il suffit de dire non ».
Merci Charles Lanzig. Chambord des songes, l'idée de château mène le monde. Chez Flammarion. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
À suivre, Juliette Binoche qui ment à son mari Guillaume Canet, qui ment à son amant Vincent Macaigne, qui se ment sans doute à elle-même. Le film s'appelle Double Vie, c'est une comédie signée Olivier Assayas, mercredi prochain sur les écrans. Juliette Binoche sur Europe 1 dans un instant.
Europe 1. Jusqu'à 10h, on vous retrouve Patrick Cohen dans C'est arrivé demain sur Europe 1.
Bonjour Juliette Binoche.
Bonjour.
Double Vie, c'est une comédie signée Olivier Assayas et dont vous partagez l'affiche avec Guillaume Canet, votre mari, éditeur, qui vous trompe, Vincent Macaigne, votre amant, dont les romans sont édités par votre mari, et Nora Hamzaoui, la compagne de votre amant. C'est dire que les personnages ont tous presque tous des doubles vies, qu'ils se mentent les uns aux autres, qu'ils se mentent parfois à eux-mêmes. C'est pas le seul sujet, mais c'est aussi un film sur le mensonge.
Beaucoup, oui. Mais aussi sur le besoin de vérité, parce qu'à la fin, ça se dénoue par un désir de revenir à une relation plus en phase avec soi-même, déjà avec ce qu'on ressent, mais aussi pas perdre l'essence même de ses choix de vie. Et c'est ce que fait par exemple mon personnage à la fin, quand elle se dénoue de cette relation avec le personnage que joue Vincent Macaigne, et pour revenir à son mari qui est Guillaume Canet.
Qui est Guillaume Canet. Voilà. Et il y a un personnage, je ne dirais pas lequel, qui ne ment pas, qui lui, personnage, n'a pas de double vie. Il y a aussi le mensonge des romans qui n'en sont pas vraiment, ce qu'on appelle autofiction, où les auteurs racontent leur vie, mettent en scène leurs femmes ou leurs ex-femmes.
Oui, mais enfin, l'art d'une manière générale, on s'inspire forcément de sa vie ou des choses qu'on connaît. Donc, ce n'est pas parce que c'est autobiographique que ce n'est pas forcément une œuvre.
Oui, mais c'est de façon plus ou moins romancée. Ça donne lieu, par exemple, à un running gag à propos d'un souvenir sexuel accompli pendant une séance de cinéma et même pendant une projection de Haneke. Enfin, c'est ce qui est écrit dans le livre et ce qui met tout le monde dans l'embarras et qui est assez drôle.
Oui.
Réplique formidable de Nora Hamzaoui à Vincent Macaigne. Tu ne mens qu'à moi, la vérité tu l'as dit à tout le monde dans tes livres.
C'est vrai.
C'est pas mal, ça. Et pendant ce temps, vous, Juliette Binoche, Selena, vous jouez la comédie d'une certaine façon.
Je suis actrice dans le film.
Voilà,
ouais,
à votre... ouais. Mais vous jouez la comédie aussi à votre mari, Guillaume Canet, en lui mentant. Donc c'est
alors, jouer la comédie et mentir, c'est deux choses différentes. Hein, parce que pour moi, dans un film, quand on joue, on dit la vérité. Non, mon personnage ment. Voilà, elle a un amant. Quelque part, c'est presque assumé entre ce couple. Ils savent qu'ils se trompent l'un l'autre. Mais comme il est dit dans le film qu'ils sont ensemble depuis 20 ans et que bon, ça permet donc d'avoir quelques petites tares sur les côtés, disons que ça leur permet de continuer dans le temps. Mais bon, ça, c'est une idée que Olivier a écrite à Sayas, le metteur en scène et auteur du film. Et donc, c'est sujet à réflexion, en tout cas.
On va écouter un petit extrait de la bande-annonce de Double Vie.
Excuse-moi, je suis en retard.
T'es jamais à l'heure.
Ouais, j'étais en rendez-vous avec Laure.
C'est chaud, ça. Laure.
Qui s'occupe du développement de l'édition numérique. Asseyez-vous.
J'ai toujours l'impression que dans le monde de l'édition, le numérique, c'est un peu vu comme le diable.
Vous êtes là pour bousculer un peu les habitudes.
Jusqu'où ?
Ah bah ça, c'est à vous de me le dire.
Qu'est-ce que vous pensez de la polémique qui fait rage autour de votre livre ?
La question, c'est de savoir si les romanciers ont le droit de s'inspirer de personnes existantes.
T'es sûr qu'Alain n'a pas lu entre les lignes ?
Je crois que c'est quelque chose.
Je crois que c'est une façon de se venger.
Double Vie, c'est donc un film qui parle pas seulement de mensonges, mais qui parle aussi de littérature, de support numérique, de l'éventuelle disparition du livre papier. Vous vous imaginez, vous, Juliette Binoche, sans le papier des livres ?
Non, je ne m'imagine pas sans le papier des livres. Je pense que ça perdurera, que le numérique n'aura qu'un temps. Enfin, c'est l'impression que j'ai, en tout cas, par rapport au livre. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a un côté tactile, hein, il y a l'odeur du livre, il y a l'épaisseur du papier, il y a la couverture, la quatrième couverture. On retourne, on le touche comme un objet et qui devient presque une prolongation de soi, de sa pensée. Puis c'est un objet qu'on peut offrir. C'est pas la même chose que d'envoyer un livre via on ne sait comment d'ailleurs.
Complètement dématérialisé
dans le cosmos. Donc je crois que ça perdurera parce que d'abord on peut garder un livre et puis que quand on souligne au fur et à mesure d'une lecture, quelque part les mots s'impriment encore plus. Et quand on revient à ces lectures-là, on dit tiens, pourquoi j'ai souligné ça ? Et on peut relire les choses différemment.
Olivia Sayas a nourri son film de conversation qui traite de la façon dont le numérique est en train de bouleverser nos vies.
On pensait que ça bouleverserait nos vies, mais en fait, et le film dit ça, que ça bouleverse nos vies, pas tant que ça, parce qu'on revient au livre.
Pas tant que ça, pour l'instant. Ça parle aussi, par exemple, du cinéma et des séries, puisque vous jouez donc, Juliette Binoche, une actrice de série télé, une série policière. On vous voit en mode GIGN avec un flingue à la main. Ça s'appelle Collusion. Vous pourriez jouer ça, vous, Juliette Binoche ? Non.
Une policière, non ?
Une policière avec un flingue à la main.
Ah bah j'adorerais, vous riez.
C'est vrai ?
Bah ouais, bien sûr.
Ah bon ?
Ça permet toutes sortes de situations.
Mais pas dans une série.
Et pourquoi pas ? Ça dépend qui met en scène, qui écrit. Non, je suis pas contre du tout. C'est pas les moyens qui sont à mettre en cause. C'est ce qu'il y a dedans.
Votre personnage se demande s'il faut qu'il fasse une saison 4. Votre mari, Guillaume Canet, vous dit les critiques sont très bonnes sur la série. Et vous répondez, mais pour les séries, la presse est toujours excellente. Alors, évidemment, c'est Assayas qui a écrit ça. Vous partagez ?
Disons qu'il y a l'engouement des séries. Ouais, c'est plutôt la mode. Et puis, c'est vrai que dans les conversations, ah, t'as vu la dernière série ? Ah ouais, il y a celle-là. Puis il y a telle... Enfin, une espèce d'engouement de l'équipe série télévisée. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai qu'une vie, j'en ai pas deux. J'aimerais bien avoir une deuxième pour pouvoir éventuellement regarder certaines séries, mais c'est trop chronophage. Ah bah, ça bouffe le temps. Et puis, c'est vrai, il y a un côté drogue un peu. On en regarde quatre et tout d'un coup, on est accroché, on peut plus. Mais j'avoue que j'en ai regardé en tout cas une. Il y a belle lurette. C'est Six Feet Under.
Six Feet Under, oui.
Oui. Et ça, c'est vrai que c'était bien. Mais à un moment donné, ça s'est pété la gueule quand même dans l'histoire.
Et ultime clin d'œil, Assayas fait dire à vos personnages que pour enregistrer un audiobook, un livre audio, ce serait bien d'avoir Juliette Binoche. Et du coup, vous ne voulez pas leur donner le contact de Juliette Binoche.
Non, mais ça c'est l'humour d'Olivier. Il aime bien faire rire et donc ça l'amusait. Parce qu'au départ, on parle de Catherine Deneuve qui dira jamais oui à voilà, un enregistrement de sa voix.
Un livre audio.
Et donc, à la fin, il m'a fait un clin d'œil, oui, parce que ça fait... C'est vrai qu'on a, on fait bonne équipe ensemble et il y a un côté de faire un gros clin d'œil à notre amitié.
Double vie d'Olivia Sayas avec Juliette Binoche, avec Nora Hamzaoui, Guillaume Canet, Vincent Macaigne, mercredi prochain au cinéma. Merci,
merci
Juliette
beaucoup.
Binoche d'être venue
merci.
Nous en parler.
Europe 1.
Ainsi s'achève C'est arrivé demain, émission préparée comme celle du samedi par Marina Pruzès, réalisée par Sophie Mallier. Je vous retrouve samedi prochain à 9h10, évidemment, et dans 5 minutes, ce sera le grand rendez-vous. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour à tous. Notre invité ce matin, c'est Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France. Il est tête de liste pour les prochaines élections européennes. Nicolas Dupont-Aignan, un ardent défenseur du mouvement des Gilets jaunes. Alors on va lui demander quand même, à quelques jours de l'ouverture du grand débat national, s'il a l'intention d'y participer. Puis quel espoir il porte dans cette élection européenne où la concurrence va être rude avec son ex-allié de la présidentielle, Marine Le Pen.
A tout de suite, Hélène Jouan avec Nicolas Dupont-Aignan. Excellente journée à l'écoute d'Europe 1.